Merci tout le monde pour votre accueil chaleureux la semaine passée. C'était mon premier dimanche depuis mon retour de mon voyage à Sudbury et c'est merveilleux pour moi de revenir à cette église. Vous savez aussi, j'ai pu trouver une bonne église qui m'a accompagné là-bas à Sudbury et je peux dire que la communion fraternelle là-bas et ici, la parole de Dieu là-bas et ici ont été un grand soutien pour moi. Et merci aussi pour vos prières. Et c'est merveilleux de savoir qu'on peut déménager dans une autre ville, même si c'est pour une courte période de temps, et vraiment être quand même dans le même... On reste dans la même communauté, on reste dans le même réseau d'enfants de Dieu. On reste nourri chaque jour par cette même parole. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. Et je suis heureux d'être de retour parmi vous pour continuer le pèlerinage de la vie et de la vie à 100% pour Dieu, tout au moins, c'est ce qu'on veut tous. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, as-tu peur de la mort? Moi, je suis quelqu'un qui a peur de la souffrance et de la mort, comme beaucoup de gens, je pense. Et c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles je détestais je déteste toujours les films d'horreur. Je connais des gens qui adorent ça, les films d'horreur. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les films d'horreur? Oui. Vous êtes des gens qui m'intriguent au plus haut point. Moi, je me souviens quand j'avais 13 ans, il y avait Les Dents de la Mer qui sont sortis. On peut pas vraiment appeler ça un film d'horreur, mais quand même, c'est pas loin. Et j'avais vu ça avec un ami d'école et j'ai été traumatisé pendant tout un été, même dans ma propre baignoire. Tu sais, c'est comme, je sais pas, j'avais peur et j'avais peur des requins en fait. C'est logique. C'est pas logique d'avoir peur dans une baignoire ou dans un lac. Mais je me suis dit, ok, les films d'horreur, laisse faire ça, ça me traumatise trop. Et à peu près au même moment de ma vie, j'avais un prof du secondaire qui était vraiment intéressant, un prof de français, mais qui aimait beaucoup parler de toutes sortes de choses. Et il nous avait parlé d'un film d'horreur qui était sorti en 1968 et qui s'appelle « La nuit des morts vivants ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Moi, j'ai décidé de pas le regarder. Mais il nous a raconté l'histoire. C'est des zombies qui sortent de leur tombe et puis qui terrorisent la population des vivants qui sont pas encore morts. Et puis le truc, c'est que... je vais vous montrer la photo. Regardez ça. C'est la nuit des morts vivants. C'est des gens qui sortent de leur tombe. C'est pas vrai, là. Hein? C'est une histoire inventée. Mais c'est des morts qui sortent de leur tombe et passent une nuit à terroriser et à violenter les vivants. Et ce que le prof nous expliquait, c'est que un zombie, en tout cas dans ce film-là, les zombies, tu peux pas te défendre contre eux parce que tu peux pas les tuer. Ils sont déjà morts, OK? Alors, et ça, ça m'a fait peur, mais aussi, plus tard, ça m'a fait réfléchir qu'une armée de gens qui sont déjà morts, c'est une armée qui n'est pas arrêtable. Et on peut voir des exemples de ce genre d'armée-là ou de personnes-là qui sont déjà morts ou tout au moins dans leur tête. Et ils ont plus peur de la mort, fait qu'ils ont une puissance plus grande que les gens ordinaires. J'ai pensé, par exemple, les terroristes en haut à gauche. Alors, je ne veux pas glorifier les terroristes, mais ce qui fait leur force et ce qui fait que vraiment ils posent un problème quasiment insoluble à la sécurité mondiale et la sécurité des nations, c'est qu'ils sont prêts à mourir. Et ça pose problème. Pas juste les terroristes, les cartels criminels, par exemple, comme celui-ci qui est, je pense, mexicain, peu importe. J'ai vu dans un reportage que beaucoup de ces jeunes-là qui se joignent aux gangs de rue, les cartels de drogue dans différents pays, ils sont tellement efficaces parce qu'ils savent d'avance qu'ils vont mourir jeunes. Fait qu'ils n'ont pas peur. Prenons un exemple plus positif. Les athlètes olympiques dans les sports hyper dangereux. Je crois qu'il y en a certains que comment ils se mettent dans la tête de se surpasser dans leur capacité, dans leur performance, ils doivent en arriver à se dire « Je ne dois plus avoir peur de me blesser ou de mourir. » Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils pratiquent des sports excessivement dangereux. Quelque chose dans un sens un peu plus proche de ce que nous, on cherche. Les premiers chrétiens, certains d'entre eux, ont fini dans l'arène romaine parce qu'ils refusaient de sacrifier, de faire des libations à l'empereur romain. Je dis certains d'entre eux parce qu'il y en avait qui ont eu peur et qui ont renié leur foi. Mais d'autres ont dit non, Jésus-Christ est mon seul Seigneur, César n'est pas mon roi, est mon roi, mais n'est pas mon Seigneur et certainement pas mon Dieu. Je ne vais pas sacrifier. Et on voyait une image ici de ce qui est arrivé à certains martyrs, beaucoup en fait, ont fini à exécuter. C'était une punition pour ne pas obéir à la loi de l'Empire romain de sacrifier à la statue de l'empereur. À quelqu'un qui, dans sa tête, se considère dans un sens déjà mort, va avoir la source de force, la motivation, dans bien des cas, pour faire des choses extraordinaires. Toi, aujourd'hui, as-tu peur de la mort? Et il y a peut-être des gens parmi nous qui doivent penser à la mort à tous les jours, peut-être à cause d'une maladie dans la famille ou dans leur propre corps. Et évidemment, ça fait peur. Mais c'est pas vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Mais c'est relié indirectement, mais c'est plutôt, est-ce que je sois en bonne santé ou pas, est-ce que je vis ma vie avec la conviction que ma mort terrestre n'est plus vraiment mon problème? Est-ce que je vis ma vie terrestre avec la conviction que ma mort n'est plus vraiment mon problème? Alors, ce matin, je voudrais qu'on lise un passage dans 2 Timothée, au chapitre 1, qui nous parle justement de ce problème et qui, je pense, va venir nous donner du courage pour vivre la vie d'une nouvelle manière. 2 Timothée, chapitre 1. Et le contexte, donc, c'est l'apôtre Paul, qui est emprisonné à Rome vers la fin de son ministère. Et il écrit au jeune pasteur qui s'appelle Timothée, qui l'a formé, et que ce jeune pasteur est aux prises avec la timidité et la peur dans son ministère. À l'intérieur de l'Église, il y a des obstacles qui l'intimident et à l'extérieur aussi. Paul est en train de lui dire, vis pleinement pour Dieu, sans peur. Et juste avant le passage qu'on va lire, Paul rappelle à Timothée que son appel au pastorat et à la vie chrétienne est basé sur la grâce de Dieu. Une grâce de Dieu qui a été décidée pour lui avant le début du monde. Prions un instant, puis on va lire le passage. Je crois que c'est la prochaine diapo. Oui, c'est ça. Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs pour entendre quelque chose de toi à travers ta parole ce matin. Amen. Voici ce que dit 2 Timothée 1. Je vais surtout parler du verset 10, mais on va lire jusqu'au début du chapitre 12. Et maintenant, cette grâce a été révélée par la venue de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est Paul qui écrit ça. C'est aussi la raison de mes souffrances récentes. Paul est en prison, hein? Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je vais peut-être juste relire le verset 10. Et maintenant, cette grâce a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Alors, il y a quatre réalités ici qui, dans le contexte de ce passage, qui s'appliquent à la situation de Paul et Timothée. D'une part, et la nôtre aussi. Puis je voulais m'attarder sur ces quatre réalités que j'ai observées ou que le Seigneur m'a mis devant moi. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. La première, c'est un peu cette tendance à vivre la vie chrétienne à moitié qui est le problème de Timothée. Deuxièmement, cet appel à vivre la vie chrétienne à 100%. Qui est, on peut dire, le modèle de Paul qui écrit. Troisièmement, la motivation, la source de cet appel, la victoire de Jésus sur la mort. Puis quatrième réalité, on va parler un petit peu des caractéristiques d'une vie sans peur de la mort. Première réalité, donc, la tendance de vivre la vie chrétienne à moitié, on va le dire comme ça. Et c'est une tendance qui me guette, en tout cas, avec laquelle je lutte, malheureusement. Paul écrit à Timothée, dans les deux lettres qu'il lui écrit, et lui dit, « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Timothée était un jeune pasteur que Paul avait pris sous son aile dans son équipe missionnaire. Le contexte ici, c'est que à l'extérieur de l'Église, il y a une persécution des chrétiens qui grandit. Vous savez que Paul insistait beaucoup sur le fait que l'Évangile qu'on prêche, c'est l'Évangile de la croix, que le Messie, le Sauveur de l'humanité, devait être crucifié pour que toi, moi, puisses être réconciliés avec Dieu. C'était un message vraiment on peut dire inacceptable dans le contexte tant juif que que non-juifs. C'était vraiment honteux même de mentionner la croix dans l'Empire romain. Tout le monde savait ce que c'était parce que les Romains crucifiaient les criminels et l'idée c'était de les exposer publiquement. Et au bord des grandes routes, il y avait des crucifiés régulièrement. C'était pour rappeler à tout le monde, obéissez-nous parce que sinon vous allez finir comme ces gars-là. C'était honteux, c'était horrible. Et Paul avait compris ce que Jésus est venu faire, nous montrer à quel point notre salut a coûté cher. Et dans le contexte des églises de cette époque, deuxième moitié du premier siècle, il y avait beaucoup d'opposition à cet évangile. Et j'imagine qu'à l'intérieur des églises, il pouvait y avoir de la tension. Parce que si, à l'extérieur, on critiquait l'évangile chrétien, on disait « c'est horrible ce que vous croyez, vous prêchez un roi crucifié », eh bien, il y avait des gens à l'intérieur des églises qui disaient sans doute « ben il faut changer l'évangile, le rendre plus facile à accepter par les autres ». Et Timothée était sûrement l'objet de critiques et il devait tenir ferme. Et c'est ce que Paul lui demande pendant tout au long des épîtres que Paul lui a écrites. « Tiens ferme, sois fort, sois courageux, que personne ne méprise ta jeunesse ». Le modèle de Paul, en revanche, est vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu et qui vit, on peut dire, la vie chrétienne à 100%. Et c'est un peu comme si la croix de Jésus, il l'avait comme intégrée à sa propre âme. On va en parler davantage. Et Paul écrit de prison, mais sans cesse, il dit dans ses lettres qui viennent de la prison, « Ne vous attristez pas pour moi. Restez solidaires avec moi. J'ai besoin de vos prières à chaque jour. Je souffre, mais c'est ma gloire d'être ici parce que lui, c'est comme ça qu'il comprenait ça. C'est un honneur pour moi d'être associé à la croix de Jésus et à la honte que Jésus a vécue. Et par le fait que je suis en prison, l'Évangile avance. Il y a quelque chose que les gens comprennent à propos de l'Évangile qui fait que le message se comprend mieux à l'extérieur de ma prison. Je parlais de la honte tout à l'heure, et c'est un thème aussi qui revient souvent chez Paul. Il dit à Timothée, n'aie pas honte. Je pense qu'on a vu ça dans le passage aussi. N'aie pas honte de moi ou de mes chaînes, au verset 12. Je pense que dans notre monde à nous également, on lutte beaucoup avec la honte. C'est une autre sorte de honte, mais on a peur par rapport à notre réputation. Qu'est-ce qui arrive si les gens savent que je suis chrétien? Ça dépend des situations. Je peux vous dire que quand j'étais donc à l'université à Sudbury avec mon beau bureau, puis mon nom marqué sur la porte, et puis quand le GBU là-bas m'a demandé de partir une étude biblique, j'ai dit « OK ». Et puis là, ils ont dit « ben on va faire une annonce par courriel à toute l'université ». Ben j'ai été impressionné qu'ils ont trouvé le moyen pour que tout le monde à l'université reçoive le courriel de venir au groupe GBU. Mais je savais pas qu'ils allaient mettre études bibliques animées par Marc Debanet, professeur dans tel département. Et J'étais au début un peu gêné de voir ça. J'ai dit, qu'est-ce que mon chef de département va dire? Est-ce qu'il va me soupçonner de prosélytisme? Finalement, il était bien content. Il était très content, mon chef de département, que mon nom apparaisse dans un courriel comme ça. Mais c'est ma réaction que j'étais un peu gêné. Mais Paul m'aurait écrit, n'aie pas honte de l'Évangile, go! Qu'ai-je à perdre à part ma réputation? N'est-ce pas? Ça, c'est Paul irait même plus loin que ça. Deuxième réalité, l'appel à vivre la vie chrétienne à 100%. Donc, face à cette tendance qu'on a à diluer la vie chrétienne, le modèle de Paul nous montre plusieurs choses. Premièrement, le contentement. Ça, c'est vraiment important. Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, du fond de sa prison, c'est pas le même emprisonnement, probablement, mais il a écrit à l'église de Philippe, donc ne pleurez pas pour moi, et même il lui dit, enfin peu importe, il dit ceci, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Ça fait partie de vivre la vie chrétienne à 100%. Et je peux dire à tout le monde ici que les frères, les sœurs qui m'édifient le plus, comment je pourrais dire ça? Les situations qui m'édifient le plus, c'est lorsqu'un frère ou une sœur vit une situation difficile et me surprennent en disant, ben en fait, j'ai découvert Dieu dans mon épreuve. C'est un petit peu, j'espère que ça ne le dérange pas que je dise ça, mais quand je suis allé voir Régent à l'hôpital il y a un mois, qui venait de se faire opérer dans la colonne vertébrale et je m'attendais à découvrir un homme complètement abattu. Et puis, il m'avait annoncé, enfin, Cheryl et moi nous avaient dit, mais en fait, dans la prière, en me préparant pour mon hospitalisation, j'ai comme entendu la voix de Dieu qui me disait, quelque chose comme, t'en vas vers un rétablissement. Et il m'a dit, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais vraiment, je suis encouragé j'ai senti que Dieu était avec moi. Et en fait, son opération s'était bien passée et je me suis dit, waouh, moi, je suis venu l'encourager, mais c'est vraiment lui qui m'a parlé du contentement et de la présence de Dieu dans une épreuve que honnêtement, j'ai jamais vécu moi-même. Le contentement, trouver le contentement dans une épreuve, ça c'est et même dans les situations bonnes comme les situations mauvaises. Mais aussi, Paul parle d'être libéré de la peur de la mort. Et notre passage de ce matin parle de cela. Mais il y a un autre passage, encore une fois dans Philippiens. Paul dit aux Philippiens, je ne sais pas si je vais vous revoir. Ça se peut que je meure dans mon emprisonnement. Puis, honnêtement, j'aimerais ça. Il leur dit ça comme ça. Mais je ne sais pas parce que ça serait peut-être mieux que je sois libéré parce que mon travail n'est pas fini. Mais honnêtement, j'aurais le goût de mourir et d'aller avec Christ. Et il leur dit, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Voilà un homme qui est libéré de la peur de la mort. Il est aussi libéré de la honte, on en a parlé tantôt.
Voyons.
Troisième réalité, c'est que la source, j'ai mis motivation, mais je crois que c'est plutôt la source de cet appel, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Et j'ai mis en rouge les deux choses que Paul met en valeur dans ce que Jésus-Christ a accompli en venant sur la terre. Il dit que cette grâce, la grâce qui a été décidée avant le début de la création, une grâce pour chacun de nous qui est ici ce matin, parce que le même appel que Timothée a reçu, c'est le même pour nous. L'appel d'être en Jésus-Christ, d'être renouvelé et de faire partie de son ministère. Cette grâce, donc, décidée à l'avance, a été révélée, donc, quand Jésus est venu et le Fils de Dieu s'est fait chair. Cette grâce a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a brisé la puissance de la mort. Très, très important. Et la deuxième chose qu'il a faite, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Ça nous parle de la nouvelle vie, la vie éternelle. Donc, en rouge, briser la puissance de la mort. Deuxième chose, faire resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Et comment? Par le message de l'Évangile. Premièrement, cette puissance de la mort, dans quel sens est-ce qu'elle a été brisée, cette puissance de la mort? L'affaire, c'est qu'on pourrait passer toute la journée à parler des différentes choses qui ont des choses mauvaises qui ont été détruites par la crucifixion et la résurrection de Jésus. On peut déjà penser au fait que on était condamné à cause de nos péchés et la Bible nous dit que par la mort de Jésus, c'est nous, il est mort à notre place, n'est-ce pas? Donc, la condamnation qui devait venir sur nous à cause de la loi parfaite de Dieu est allée sur lui et notre condamnation est déchirée, elle est annulée. Il y a ce sens-là. Il y a le sens aussi que d'une manière un peu surnaturelle, la nature pécheresse qui est en nous est comme mise knock-out. Et je crois que c'est beaucoup de ça qui parle dans le week-end forteresse. Mais il y a une autre dimension qui, je pense, est importante pour Timothée, ici, qui lit la lettre, c'est la puissance de la mort par rapport à la peur que la mort crée dans nos cœurs. L'Épître aux Hébreux nous dit que Christ a délivré tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage au diable, leur vie durant, par la peur de la mort. Ça, c'est un autre aspect que, quand on a peur de la mort, et comme j'ai dit au début, je fais partie de ceux qui ont peur de la mort, eh bien, je suis esclave de cette peur. Parce que je vais prendre mes décisions de vie en fonction du fait que je veux éviter la souffrance et la mort. Hier soir, avec ma femme et une de mes filles, on a vu à TVA, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, Titanic. Est-ce qu'il y en a qui ont vu? Oui? Bon, alors, quel bon exemple de la peur de la mort. Je veux dire, nous, on a mis ça en retard. On n'a pas vu, on est arrivé, puis le bateau était déjà en train de couler. Puis la panique qui monte, et ce qui nous a vraiment frappé, c'est d'une part, ben, comment les gens réagissent. Beaucoup de peur de la mort et on se regardait, mais on disait, mais est-ce qu'on ferait pas pareil? Oui, mais j'espère que non, ben, je sais pas. Et puis, il y avait certaines personnes qui décidaient stoïquement, on va mourir, on va laisser d'autres aller dans les bateaux de sauvetage, puis nous, on va rester dans le bateau, mais on va mourir. Certains par honte, le capitaine, c'était par devoir et par honte, d'autres par honneur, mais ils étaient une minorité. Mais quand tu es captif de la terreur de la mort, comme c'était le cas de tous ces gens, eh bien, oh là là, ça les a poussés à agir, évidemment, comme des bêtes. Et honnêtement, on pouvait les comprendre. Puis on a comme prié intérieurement, Seigneur, donne-nous de réagir dans des situations comme ça, comme des vrais chrétiens. Paul dit, moi, je vais aller jusqu'au bout. Et Timothée, je t'encourage à le faire aussi. Et à la fin du verset 12, on n'a pas lu la fin, mais il dit, j'ai pas honte et je vais persévérer. J'ai la conviction que Dieu va garder mon dépôt. Alors, c'est un peu comme si il avait mis quelque chose dans un compte en banque en Suisse, quelque chose de vraiment sécuritaire. Et c'est comme s'il parlait de son salut, son bonheur ultime, il l'a remis entre les mains de son banquier céleste, de Dieu. Et maintenant, il est libéré de la peur. Il est libéré de la timidité. Et c'est ce qu'il nous encourage à vivre aussi. Quelles sont les caractéristiques, finalement, d'une vie sans peur de la mort? Alors, premièrement, voyons un peu la différence entre Titanic et puis Dollar des Ormeaux ou Pierrefonds en avril 2012. On n'est pas comme à quelques minutes de notre mort, ou tout au moins, on n'en est pas conscient, et j'espère que c'est le cas pour personne ici. Deuxièmement, on n'est pas tous appelés, comme Paul, à avoir un ministère spectaculaire. On peut être des chrétiens très ordinaires. Et une chose qui m'a touché dans l'épître de 2 Timothée, c'est que Paul dit à Timothée, qui est peut-être une personne un peu plus ordinaire que Paul, mais il dit à Timothée, tu sais quoi? Ta mère puis ta grand-mère, je les ai connues, et elles avaient la foi, puis j'ai la conviction que t'as la même foi qu'elles. Et quand on parle de femmes dans le milieu juif ou chrétien de l'Antiquité, c'était rarement des personnes qui pouvaient avoir une vie comme spectaculaire. Hein, c'était des sociétés très patriarcales où les femmes avaient un rôle important, mais on leur donnait pas le crédit, bien souvent, et elles devaient agir dans l'ombre. Mais Paul dit, mais j'ai connu la foi de ces femmes-là, ta grand-mère, ta mère, et il reconnaissait que ces chrétiennes ordinaires, ces chrétiennes peut-être dans l'ombre, dans les milieux communautaires, c'était des gens qui vivaient la vie. On va dire la vie chrétienne, je ne sais pas si, parce que Timothée nous dit le livre des Actes, c'était un juif, donc peut-être c'était une synagogue où Paul les avait connus. Mais j'aimerais dire que pour les gens ordinaires comme vous et moi, on peut aller chercher le contentement à chaque jour, comme Paul l'a fait en prison. Et ça, c'est important. C'est vraiment important parce que j'oserais dire que peu d'entre nous sommes heureux à 100% ou satisfaits à 100% de notre situation. Dieu permet des fois des épreuves, des déceptions dans nos vies, en partie pour nous apprendre à rechercher son cœur, à rechercher le contentement en lui dans cette situation, puis à trouver l'appel de Dieu dans cette situation. Vous savez, j'ai un bon ami qui a œuvré avec moi dans le ministère et qui s'est marié à un beau couple, deux personnes très engagées à Dieu. Ils ont eu deux enfants et les deux enfants sont autistes. Et au début, c'était une grande déception. Et je me souviens que cet ami me disait qu'il priait à « Pourquoi moi, Seigneur? » Puis, et à un moment donné, il s'est dit « Mais pourquoi pas moi? Est-ce que je ne suis pas bien équipé pour comme faire face à ce défi-là? » Et plus je les vois aller, ces parents-là, puis plus je les vois s'impliquer dans les associations pour aider les enfants autistes et les familles où il y a des enfants autistes en tant que chrétiens. Et je me dis, ah voilà, des chrétiens qui ont recherché et qui ont trouvé le contentement, mais pas la passivité, un contentement qui ensuite nous pousse vers trouver l'appel de Dieu. Puis, une autre caractéristique qu'on voit chez Paul et qu'on peut appliquer à nos vies, l'audace. L'audace de prendre des risques calculés pour l'Évangile. Et nous pouvons tous réfléchir à cela cette semaine dans la situation ordinaire où je me trouve, peut-être dans un emploi difficile, peut-être dans une situation de famille qui n'est pas idéale, un problème de santé, des voisins qui m'embêtent peut-être, ou « Seigneur, montre-moi un risque que je peux prendre pour leur communiquer l'Évangile. » Ouais. Je vais conclure. « As-tu peur de la mort? » On a vu que ce passage nous parle, et j'aimerais qu'on retienne ça cette semaine, qu'on a reçu une grâce et un appel avant la fondation du monde en Jésus-Christ, et que quand Jésus est venu, il a révélé deux choses. La mort a été vaincue dans nos vies pour toujours, et deuxièmement, on a une nouvelle sorte de vie qu'on est en train de vivre en Christ. Nous sommes appelés à devenir une armée de morts vivants. OK, vous voyez cette image en bas? C'est quelqu'un qui se fait baptiser. La Bible nous dit que quand on sort de l'eau, on sort mort au péché et en nouveauté de vie, mort avec Christ, enseveli avec lui dans le tombeau, vivons comme des personnes vivons comme des morts revenus à la vie, sans peur, avec seulement le bonheur devant nous. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être ici ce matin. Merci d'avoir brisé la puissance de la mort. Merci d'avoir brisé la puissance de la peur de la mort dans nos vies. Seigneur, je reconnais que dans mon passé, je n'ai pas vécu cette vie-là, mais je veux la vivre aujourd'hui. Je veux tout te donner. Je te donne mon ancienne vie. Je veux mourir avec toi et revivre dans la nouvelle vie. Donne-moi cette nouvelle mentalité qui n'a plus peur de la mort. Amen.